question d'islam par Ghalib Benchir. Une grande figure de l'islamologie savante nous a quittés récemment, il y a quelques mois, c'est le 23 mai 2017. Nous rendons hommage aujourd'hui à Ali Merad. Et j'ai plaisir à recevoir le chercheur, l'écrivain, l'historien de l'islam contemporain, Sadr Selam. Sadr Selam, bonjour.
Bonjour.
Vous avez bien connu Ali Merad. Et c'est pour ça que nous vous en savons gré d'avoir donné de votre temps pour venir en témoigner d'une trajectoire de vie et d'une vie très riche, d'un homme d'une grande érudition pluridisciplinaire, mais aussi un homme de foi et un homme d'une grande discrétion. Vous-même, vous le dites, reprenant une parole de Bourdieu, on connaît la valeur des chercheurs et des universitaires à leur apparition inversement proportionnelle dans les grands plateaux de télévision. Alors, vous êtes sur un plateau et un studio de radio. Nous voulons consacrer cette émission à Ali Merad. Qu'est-ce que vous connaissez de lui ?
Alors, moi, je l'ai connu parce qu'il était très impliqué dans les dialogues islamo-chrétiens. Et c'est une des constantes chez lui depuis l'âge de 20 ans. Et donc, il venait de Lyon, il était omniprésent dans les grands colloques. Et puis, ça m'arrivait assez souvent de le rencontrer à la Bibliothèque nationale. Oui. Il venait pour actualiser sa thèse jusqu'à ce qu'il tombe malade. Il actualisait son travail de phénoménologie de l'islam. Alors qu'il est parti d'un cadre très localisé, le mouvement réformateur algérien, et alors il a étendu ça à l'islam contemporain. Et donc c'était vraiment une figure de savant, islamologue, formé à l'école française, qui avait une très longue tradition, et qui avait l'humilité qui sied à l'homme de science, la disponibilité, et sa disponibilité l'amenait à partir du début des années 80 à répondre au mouvement associatif. Et ce qui manque dans sa bibliographie pour son opéra Minora, c'est les conférences qu'il a faites dans les banlieues à l'époque, pour dire aux musulmans, vous n'avez pas à avoir honte d'être minoritaire dans un état laïque, vous avez la même dignité aux yeux de Dieu que ceux qui sont majoritaires dans les pays d'origine.
Alors vous avez parlé d'islah, c'est un mot arabe qui veut dire en gros réforme. Vous avez parlé de cette phénoménologie de la réforme, nous y reviendrons. Ali Merad est né en Algérie, à La Rouate, alors sous férule coloniale, le 21 octobre 1930. Il a d'abord eu une formation classique à l'école coranique.
Oui, c'était l'habitude des familles musulmanes de n'accepter l'école communale que si c'est accompagné d'un enseignement de la langue arabe et coranique. Il est né en 1930, qui est une année très importante pour toute l'histoire du Maghreb colonial, puisque c'est l'année du centenaire de la colonisation en Algérie, qui a été célébrée avec ostentation fin juin, début juillet. C'est l'année du Daïr berbère au Maroc en mai, qui a soulevé toute l'opinion musulmane de Jakarta jusqu'aux émigrés d'Amérique latine, contre la France qui a décrété que les berbères ne peuvent pas être régis par le droit musulman. Et puis en juillet, la résidence de Tunis a fourni une grande subvention à l'archevêché de la même ville pour financer le congrès eucharistique, c'est-à-dire la célébration du 1600e anniversaire de la naissance de Saint-Augustin, qui était une grande provocation. Bourguiba, malgré son adhésion à la laïcité, s'est dit choqué. Et donc Merad a grandi et est né cette année-là, et dans une ville qui avait été marquée par le séjour de l'émir Khaled. Khaled était venu à La Rouate avant son expulsion d'Algérie.
L'émir Khaled étant le petit-fils de l'émir Abdelkader.
De l'émir Abdelkader qui a gagné les élections haut la main en 1919-1920 et que le gouvernement général a annulé Alors, l'annulation des élections n'est pas une nouveauté en Algérie, sous prétexte qu'il a utilisé des arguments religieux. Parce que les Mekhaled commençaient toutes ces réunions par des versets du Coran. Et ensuite, la célébration du centenaire a eu pour conséquence directe la création de l'association des ulamas musulmans d'Algérie en mars 1931. Et ça n'a absolument rien à voir avec les frères musulmans, contrairement à ce que prétendent les islamopolitistes un peu fâchés avec l'histoire. Et le cheikh Ben Badis, le chef de file de l'islam algérien, a dépêché très rapidement le cheikh Mbarak El-Mili à la Gouate. Alors, cheikh Mbarak El-Mili était l'un des plus portés vers l'écriture, alors que l'association des ulama avait surtout des orateurs très éloquents. Il a écrit une histoire de l'Algérie, pour montrer que l'Algérie est une nation, et il a écrit son traité contre l'associationnisme, Shirku wa Mazahiruhu.
L'associationnisme et ses manifestations.
Voilà, donc c'était inspiré des livres andalous sur le bid'ah, les innovations blâmables, comme le Matral d'Ibn al-Hajj.
Et donc, le Matral d'Ibn al-Hajj étant l'introduction, une sorte d'avant-propos, de prolégomène, si je puis dire. Je fais simplement le médiateur entre ce que vous dites avec des termes savants et cette terminologie classique en islamologie et nos amis auditeurs. Donc c'était une constante, mener une formation duale, classique, traditionnelle à l'école coranique et en même temps l'école communale. L'homme sera un jeune homme brillant, il ira au lycée Bugeaud à l'époque, qui sera rebaptisé lycée Émir Abdelkader, et là il rencontrera certains aussi de ses condisciples.
Mais il faut souligner aussi qu'il a trouvé le moyen d'étudier l'anglais à la Gouate. On ne sait pas comment, parce que l'anglais, langue étrangère, n'est pas enseignée dans le primaire. Alors, soit des cours particuliers, soit que l'office britannique devait avoir une antenne à la Gouate. Il est arrivé au lycée Bugeaud avec une bonne connaissance de l'anglais, en plus de l'arabe et du français, et il connaissait le Coran par cœur. Il était un brillant sujet. Il commençait ses journées à 5h du matin à l'école coranique pour être à 8h à l'école française qui donne une autre notion de ce qu'on appelle maintenant les rythmes scolaires qui sont l'objet de
débats, parfois oui. De vives polémiques, mais bon.
Et il arrive au lycée Bugeaud qu'on appelait le lycée impérial du temps de Napoléon III. Et c'est le lycée le plus prestigieux d'Algérie où il collectionnait les prix d'excellence. C'était un très brillant sujet. Et donc il rencontre Ahmed Talib Ibrahimi, qui est son cadet de 2 ans, le fils du Cheikh Bachir, qui avait succédé à la tête de l'association des ulama au Cheikh Ben Badis.
Et qu'il en fut le vice-président du vivant de Ben Badis.
Voilà. Et puis à partir de 40. Ou même à la libération, il lui a succédé. Et donc, comme il était interne au lycée Bugeaud, les internes sortaient le mercredi ou le jeudi, et il allait chez le cheikh Bachir dans sa résidence de Kouba. Donc ça lui faisait découvrir une très grande bibliothèque.
Kouba étant un des faubourgs d'Alger.
Alors là, on est passé de l'entre-deux-guerres à l'après-deuxième guerre mondiale, qui a été un grand tournant pour l'histoire de l'Algérie. D'abord de l'histoire culturelle et intellectuelle. Il y a une augmentation sensible du nombre d'étudiants à l'université d'Alger, où il y avait très peu d'indigènes, comme on disait à l'époque. Et il y a eu une amélioration, une nette amélioration de leurs conditions de logement. Les étudiants indigènes logés dans un immeuble insalubre de la place de la Lyre. Et ils étaient approvisionnés en fruits et légumes le jour du marché par les marchands algérois. Et c'était des étudiants, surtout nationalistes, qui étaient abandonnés par le gouvernement général. Et il aura fallu l'arrivée de l'Had Sadouk dans le cabinet de Nejlen, entre 1948 et 1951, pour que soit ouverte une petite résidence vers le Télémili qu'on appelle la Robertso. Et c'était un immeuble qui avait appartenu à une veuve pétainiste, donc confisquée à la fin de la guerre, et qui était fermée. L'Had Sadouk a dit « on l'ouvre aux étudiants ». Et c'était un lieu de débat très grande importance, où les étudiants se relayaient pour faire des conférences. C'est là que un autre disparu, Mohamed Harkoun, a fait sa première conférence en 1951 sur les tendances modernes de la littérature arabe. Mais lui, il a publié sa conférence dans Ibla. Or, Merad participait au débat, mais il n'a pas eu l'idée...
Ibla étant l'Institut des Belles-Lettres Arabes.
De Tunis. Dirigé par les Pères Blancs. Or, les Pères Blancs, il y en avait qui étaient venus à Alger pour étudier l'arabe, parmi lesquels Maurice Bormans et le père Michel Lelon. Et Merad, dès le début, il les a accueillis, alors que bon, il y avait un anticléricalisme pied-noir qui se méfiait de tout ce qui était soutane. Ils avaient des soutanes blanches, les Pères Blancs, avec des croix. Et les musulmans les soupçonnaient de venir les évangéliser. Et le père Lelon se souvient toujours de ce jeune étudiant qui vient s'asseoir à côté de lui alors qu'il toute la rangée de l'amphi était vide. Et il lui dit « Bienvenue chez nous, mon père ». Le « nous », c'est les Arabes, c'est l'Algérie, c'est l'islam. Et il faisait des réunions de rapprochement islamo-chrétien. Il a eu l'intuition que les préjugés coloniaux doivent être combattus par une connaissance mutuelle. Et alors Lelon est devenu, il a été chargé par l'épiscopat d'ouvrir le secrétariat pour les relations avec l'islam en 1975, après avoir passé 20 ans à Tunis. Et Bormans a été à la tête du PISAI, l'Institut papal d'études arabes et islamiques.
L'Institut papal ou pontifical, en réalité, des études arabes et islamiques, voilà. À l'évocation du père Michel Lelon, qui dit que leur connaissance remonte à 1954, jusqu'à la mort, jusqu'au décès d'Ali Merad. C'était une amitié forgée dans le temps, indéfectible. Et là, le père Michel Lelon est affecté par cette disparition.
Beaucoup. Je l'ai invité à une émission où il ne pouvait pas retenir son émotion. Mais on a les traces écrites de leur coopération intellectuelle et spirituelle. C'est quand Ali Merad a écrit un livre sur Charles de Foucault au regard de l'islam, 1975. C'est le père Michel Lelon qui l'a préfacé. Et l'année d'après, Michel Lelon a écrit « J'ai rencontré l'islam » et c'est Merad qui l'a préfacé. Et il est resté son invité préféré dans toutes les grandes réunions à Strasbourg, au Parlement européen. Donc c'est vraiment un exemple. Lelon n'était pas un institutionnel, ça vient de la société civile, comme on dit, des initiatives de quelqu'un qui reste attaché à sa foi, mais qui respecte les gens du livre, conformément au Coran. Et le père Michel Lelon, qui reconnaît être arrivé en Algérie avec beaucoup de préjugés d'un enfant de la bourgeoisie catholique de l'Ouest, et qui arrive quelques semaines avant le 1er novembre 54, qui a été un traumatisme pour tout le monde. Donc il décide de décoloniser les esprits, et donc les préjugés de deux côtés, et ça a donné une dimension axiale dans l'œuvre de Merad, sa participation au dialogue islamo-chrétien à l'âge de 20 ans, a déterminé sa réflexion sur l'islam en France, quand l'islam était perçu comme un problème, il l'a traité avec sa sensibilité religieuse, il n'éprouvait pas le besoin de la mettre dans sa poche. Tout en respectant la laïcité, en considérant que la laïcité est un plus pour les musulmans.
Alors, continuons dans cette trajectoire de vie, à propos de la formation d'Ali Merad, il va passer une agrégation d'arabes avec quelques-uns de ses condisciples aussi.
Oui. Bon, il a eu sa licence, donc à Alger, et il est venu l'année de l'agrégation, c'est-à-dire l'année 55-56, où il est reçu la première fois, alors que l'agrégation, on est reçu au bout de deux ou trois tentatives, et major. Il est reçu premier. Et donc, il y avait...
Agrégé d'arabe,
qui est une agrégation très difficile par rapport aux autres. Donc il y avait Benchir, Jamaldine Benchir, disparu en 2005. Il y avait Harkoun, il y avait Tapiero, qui est décédé prématurément après avoir commencé à étudier Abdelrahman al-Kawakibi, le réformateur syrien. Et, Madame Nada Tomich, d'origine égyptienne, qui est devenue prof à son tour. Et Merad a été nommé juste après l'agrégation au lycée franco-musulman de Ben Aknoun, à Alger. Alors, mais auparavant, l'année de la grecque, il a trouvé le temps d'aller à Genève pour participer aux rencontres internationales de Genève, qui étaient chaque année, et où il a été marqué par une conférence qui sortait de l'ordinaire, puisque le conférencier s'appelait Nejmuddin Bamat. Et là, j'ai une conférence dans le recueil que j'ai publié là de ce que j'ai trouvé des conférences de Nejmuddin Bamat, Foi et raison chez Avicenne, prononcée devant la fraternité d'Abraham en 1976, il aurait dit « J'allais oublier, mais voici qu'en sortant de chez moi, sous ma porte, je trouve un message de quelques amis dont Ali Merad, qui enseigne à Lyon, actuellement réuni à l'abbaye d'Ankalka, et m'assurant de leur souvenir. Cette première réunion internationale à laquelle j'ai participé avait pour thème le progrès social et l'humanisme dans la crise du monde moderne. J'avais pris le contre-pied de la plupart des intervenants, car ma conférence s'intitulait « L'homme abrahamique ».
Et il faut dire un mot simplement sur Nejmuddin Bamat, le fils de Bamat, ce diplomate caucasien et même qui est venu s'installer à Paris dans les années 20, 1922.
Alors, Haïdar Bamat avait été le président de la République du Caucase du Nord jusqu'en 1921, quand il a été lâché par les Alliés contre l'armée rouge. Et donc, il s'installe à Paris et en 1922, naît son fils aîné dans le 15e, Nejmuddin, qui considéré comme un musulman de Paris, mais qui maîtrisait une quinzaine de langues, qui a étudié à Cambridge, a étudié au Longsau, chez Massignon, mais son père lui a imposé d'aller étudier au Soldin à Al-Azhar, où il était...
Au Soldin étant les fondements de la religion.
Voilà, on peut appeler ça la théologie. Son correspondant au Caire, c'était René Guénon. Il a assisté aux obsèques de René Guénon en 1951. Bamat, le père, n'avait plus de nationalité, et c'est le roi d'Afghanistan qui lui attribue la nationalité afghane et le nomme chargé d'affaires, représentant de l'Afghanistan en Suisse et en France. Et son fils, qui était très précoce, il a fait une thèse de droit romain à Lausanne, et immédiatement après, il a été nommé ambassadeur de l'Afghanistan à l'ONU. Mais en 1900, il a été quelques mois seulement où il a eu l'occasion de rencontrer Gromyko, qui était resté son ami. Gromyko était représentant de l'Union soviétique à l'ONU avant d'être ministre des Affaires étrangères. Mais au moment de la création du Pakistan, l'Afghanistan était contre la création du Pakistan. Il demande à Nejmuddin Bamat, le jeune diplomate, de voter contre. Et la veille du vote, Nejmuddin reçoit un télégramme de son père, mieux vaut démissionner que de voter contre la création d'un État musulman. Et il obéit à son père. Et après, il a été un peu à la Croix-Rouge, avant d'être recruté à l'UNESCO, dont il a été l'un des fondateurs, où il a fait toute sa carrière.
Si vous voulez, Sadak Selam, un jour, nous dédierons une émission spécifique ad hoc à Nejmuddin Bamat. Sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Sadak Selam pour cet hommage rendu à Ali Merad, l'islamologue qui nous a quittés le 23 mai dernier. Nous étions arrivé à son agrégation, il est agrégé d'arabe, il enseigne au lycée de Ben Aknoun à Alger. Alors, quand est-ce qu'il est venu s'installer à Paris?
Il a été 2 ans au lycée de Ben Aknoun et il a eu comme collègue une agrégée d'italien qui enseignait l'italien, qui s'appelait Lucienne Portier. Et en discutant avec elle dans la salle des professeurs, elle lui a dit « quelqu'un comme vous a sa place à l'université ». Et donc elle réussit à le faire recruter à la rentrée de 58, juste après l'arrivée du général de Gaulle. Et il a fini l'assistant de Philippe Marsay, le fils de William Marsay. Donc toute la famille Marsay était à l'université d'Alger, Georges, William et Philippe. Donc c'est une université qui était dominée par le trio Pérez, Marius Canard et Georges-Henri Bousquet, qui voulaient que tous les licenciés indigènes d'arabe aillent enseigner l'arabe dialectal dans les collèges. Il les décourageait quand ils voulaient venir à Paris. Donc lui, il se retrouve collègue de ses anciens maîtres qui voulaient le vouer à enseigner le dialecte. Donc il a été notamment assistant à l'Institut d'études supérieures islamiques, qui est l'ancienne division supérieure des médersas.
Qui a réuni les 3 médersas.
Les 3 médersas seront transformés en lycée franco-musulman par Al-Hadsador en 51, mais la division supérieure a été intégrée à l'université. On a appelé ça l'Institut Pérez. À partir de 46, c'est les réformes de Châtaigneau, qui était un gouverneur qui voulait faire oublier les massacres du 8 mai 45. Donc ça donnait l'équivalent d'un DEUC, de Bac plus 2, et lui, il a passé toute la guerre d'Algérie là-bas. Sa fille est née dans une clinique des hauteurs d'Alger où il y avait des explosions de plastique partout. Sa mère se souvient. Mais en 62, il y avait un bureaucrate du ministère de l'Éducation nationale qui a dit qu'il n'a pas observé la grève de 56. C'était l'année du...
Là, c'est un bureaucrate du ministère de l'Éducation nationale de l'Algérie ayant recouvré son indépendance.
Oui. Et donc, il décide de le muter de l'université dans un collège de province. Je crois que c'était à Boussada. Et là, il décide de quitter. Il est venu à Lyon parce que l'université de Lyon avait fait appel à lui. Or, lui, il aurait préféré rester dans l'université de l'Algérie indépendante. Et à Lyon, il était chargé d'enseignement à l'époque. Et il se lance dans sa thèse sur le mouvement réformateur qu'il a commencé à étudier à partir de 58, quand il était au lycée, après avoir commencé l'étude des Mouahidines, des Almohades. Sans doute parce qu'il était marqué par Lévi-Provençal qui est mort prématurément. Lévi-Provençal était le plus grand connaisseur de l'islam occidental, maghrébin et andalou. Et donc il publie en 57 2 grands articles de plus de 50 pages chacun sur Abdelmoumen et les dynasties mouminites. Mais ensuite il découvre l'intérêt de l'étude du mouvement réformateur, dont il était imprégné des thèmes. Alors on a oublié quelque chose de son activité militante dans le Jeune Musulman, où oui. Il signait de pseudonymes.
Il a 2 pseudonymes, ça.
Deux pseudonymes, oui. Alors, Abu Jamil Taha, qui écrivait une rubrique « Lumière du Coran et du Hadith », où il a une très grande maîtrise de ces 2 textes fondateurs de l'islam, avec une belle langue, et puis une maîtrise des disciplines modernes, de philologie, de sociologie. Et Mohamed Arab, il a utilisé un pseudonyme berbère pour dire qu'il n'y a pas de différence entre les berbères et les arabes. Mais c'est pour décrire les réalités du monde musulman qui étaient assez préoccupantes.
On peut dire, Sadr Selam, que le premier pseudonyme, Abu Jamil Taha, c'est pour ceux qui relèvent de la théologie, de ces disciplines affinées et connu du Coran, de la Sunna, la tradition prophétique, alors que le second pseudonyme est destiné à une culture un peu plus large.
C'est les réalités musulmanes qui lui paraissaient devoir être améliorées à partir de l'idéal islamique, mais envisagé avec une très grande ouverture aux sciences sociales. Mohamed Arab, par exemple, faisait des critiques littéraires très élogieuses pour la trilogie de Mohamed Tib, L'incendie, La grande maison, le troisième, alors que la colline oubliée de Mouloud Mahmri a été vraiment descendue en flammes, non, ni par Taleb, ni par Merad, mais par Mohamed Chirif Sahli et Mustafa Al-Ashraf.
Qui sont deux autres intellectuels.
Mais regroupés par deux jeunes étudiants. C'était dès la création du Jeune Musulman, ils ont eu une quinzaine de collaborateurs, parmi lesquels Sahli, qui était professeur de philosophie dans un lycée du quartier latin. Reza Malek, Lebjaoui qui était un autodidacte, mais qui communisant, mais qui soutenait la revendication de Cheikh Taïb El-Aqoubi pour l'application de la loi de 1905 à l'islam.
En Algérie.
Alors qu'elle est applicable en vertu de l'article 43 de la loi de 1905. Et puis la guerre d'Algérie s'est terminée sans que ce soit appliqué. On peut revenir pour des raisons purement financières. Parce que l'application de la loi de 1905 à l'islam aurait conduit à la restitution des habous confisqués au début de la conquête, dont la valeur était estimée à 700 milliards de 1951.
Et 700 milliards de francs, et les habous étant ces biens dits de main morte.
De main morte, la ville d'Alger était à trois quarts haboussée, comme on dit. Et ça a été confisqué. Or, aucun gouverneur n'était prêt à verser à un conseil supérieur islamique démocratiquement élu, comme le Cheikh Bachir le réclamait, à lui verser 700 milliards. Donc ils ont laissé traîner jusqu'à... Les ulamas, une bonne partie des ulamas ne réclamaient que l'indépendance du culte musulman. Mais vu le cynisme de l'administration, ils sont passés à la revendication de l'indépendance politique.
Les ulamas étant ces oulémas, les savants, les docteurs de la loi, ceux qui savent les questions, notamment religieuses. Sadr Selam, poursuivant pour Ali Merad, il est établi, installé à Lyon, mais sa thèse sera soutenue à la Sorbonne.
Oui, il s'est inscrit à la Sorbonne avec Charles Pella, alors que moi je croyais que c'était Laouste. Pella était un philologue grand arabisant, spécialiste de Jahir. En dehors de Jahir, il reconnaît aucun autre génie. Mais la guerre d'Algérie a marqué les esprits. Tout le monde savait que le mouvement réformateur a...
Pardonnez-moi, Sadr Selam, c'est pas pour faire étalage d'une érudition, mais Jahid, que vous citez à juste raison, c'est l'homme aux yeux exorbités,
oui,
qui est mort
en
868 et qui passe pour être un des génies de l'humanité, un humaniste et aussi un prosateur et un polygraphe de tendance rationaliste.
Et il se réclamait du mu'tazilisme.
Et qui de l'école des premiers rationalistes musulmans. La thèse d'Ali Merad portera donc sur le réformisme. Il la soutient en 1975.
Non, 68.
En 1968.
Et le premier volume était publié l'année d'avant. C'est une des rares fois où la première thèse est publiée avant sa soutenance. Tellement c'était bien fait. Et sa deuxième, à l'époque, pour avoir une thèse d'État, il faut deux thèses. La thèse complémentaire était consacrée à Ibn Badis, commentateur du Coran. Parce que les gens ne savaient pas que Ibn Badis avait, en 20-25 ans, fait le commentaire du Coran. Et le mérite de Merad, c'est d'avoir rassemblé tout ça grâce à ses connaissances parmi les anciens élèves de Ibn Badis, qui lui ont donné le programme. Enseigné par Ibn Badis dans les années 20, il enseignait Ibn Khaldoun. Il était inspiré par le Cheikh Abdou autour de Paris, qui a imposé Ibn Khaldoun à Al-Azhar contre l'avis des théologiens, qui le considéraient comme un sindir,
c'est-à-dire un hérétique.
Oui. Et il enseignait Ibn Al-Arabi, Abu Bakr Ibn Al-Arabi.
À ne pas confondre avec Ibn Arabi,
qui
le métaphysicien.
L'awasim min al-qawasim, ce qui prémunit contre les divisions. Donc Ibn Badis a été inspiré en partie par le mouvement réformateur oriental qui avait les moyens de son érudition, mais le réformisme algérien est né du terroir algérien. Il ne faut pas oublier que le Cheikh Salah Ben Manna, qui avait précédé le cheikh Abdou Al-Azhar de 8-9 ans, et qu'il a été à l'origine d'un premier mouvement réformateur à Constantine, étouffé dans l'œuf en 1898 par l'administration, qui lui a confisqué ses livres. La Grande République française, qui veut diffuser les Lumières, confisque les livres quand ils sont considérés comme subversifs.
Et là, je voulais simplement dire que ça se faisait à la charnière 19e, 20e siècle.
Oui, et donc c'est ce premier mouvement, et le cheikh Al-Majawi, qui revenait de la Qaraouine et de Damas, où il a épousé une jeune fille de l'entourage de l'émir Abdelkader, et qui enseignait à la médersa officielle de Constantine, donc c'était un enseignant tout à fait sage, et il a soutenu le cheikh Salah ben Manna quand on lui a confisqué ses livres. Et il se retrouve muté à Alger, où il n'y avait pas de mouvement réformateur. Il y avait des abonnés à Al-Manar, comme le cheikh Mustafa Kamal ibn al-Khouja, qui a joué un rôle dans l'invitation du cheikh Abdou à Alger en 1903.
Et c'est lui qui est l'auteur de cet ouvrage intitulé « Préoccupations à propos des droits des femmes ».
Oui, « L'Ihtiras bi Huquq l'Inna ». Il a fondé en 1895 un mouvement féministe musulman dont s'est inspiré Qasem Amin quand il était étudiant à la fac de droit de Montpellier. Parce que certains, le cheikh Ibn al-Khouja n'a jamais quitté la Casbah d'Alger, mais certains de ses textes étaient publiés à Paris dans la Revue de l'Islam, tellement ils sortaient de l'ordinaire. Et Qasem Amin, qui est connu comme l'émancipateur de la femme, alors qu'il était de l'Azhar, était inspiré par Ibn al-Khouja. Et ce groupe de lettrés a invité le cheikh Abdou en 1903 à Alger, et... J'ai ici le grand article consacré en 1963 par Merad à cette visite d'une semaine, mais il lui a consacré une quarantaine de pages, et qui a été vraiment un coup de fouet pour le mouvement réformateur et l'éveil. Les lettrés qui voulaient faire de l'érudition ont éprouvé le besoin de s'engager, de sortir de leur érudition absentéiste pour réformer la société et appliquer le verset du Coran qui est célèbre, qui est vraiment l'emblème du Coran réformateur. Dieu ne change rien à l'état d'un peuple tant que celui-ci n'a pas transformé son âme.
Le fameux verset de la sourate dite du tonnerre, Dieu ne modifiera pas ou ne changera pas ce qu'il y a en un peuple tant que pris individuellement, les membres de ce peuple ne se modifient pas ou ne changent pas eux-mêmes. Sadr Selam, poursuivant avec vous cet engagement à la fois de militance et de connaissance de Ali Merad comme universitaire, mais aussi comme homme ayant à cœur le sort de la tradition religieuse islamique au sein de la République française.
Oui, dès le début, il s'était engagé pour... amener les autorités à régulariser leurs relations avec le culte musulman. Et il était bien placé pour savoir que la politique coloniale était à l'opposé de la laïcité républicaine, puisque on a refusé pendant un demi-siècle l'application de la loi de séparation.
Oui. C'est sous le gouvernement Barre, donc on est dans le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, il fera partie d'une commission.
Oui, alors, lui, il a commencé à s'intéresser aux trois I, immigration, intégration, islam.
Aujourd'hui, on ajoute un quatrième I qui est l'insécurité, mais bon, ça c'est un autre débat.
L'insécurité, l'identité, etc. Bon. Et lui, il a enseigné, moi j'ai eu les textes de son séminaire à Lyon, il enseignait l'immigration, à partir de 72-73, comme phénomène. Lui, le mot phénoménologie, il faut étudier le phénomène. Avec la plus grande impartialité, en rassemblant les paramètres pertinents et voir qu'est-ce qui ne va pas, comment ça peut aller mieux. Mais c'était d'abord l'étude et l'analyse qui lui importait le plus. C'est à ce titre qu'il a été sollicité pour faire partie de la Commission nationale des Français musulmans créée par le gouvernement Raymond Barre et présidée par Jacques Dominati, qui était secrétaire d'État aux rapatriés. C'est ce qui fait que les archives de cette commission ne sont pas au bureau central des cultes, mais on est parti des problèmes sociaux. Et c'est, ça vaut mieux comme ça, parce que quand on si on rattache ça au ministère de l'Intérieur, ça, on finit par essentialiser ces problèmes. Alors que, à l'origine, c'est des problèmes sociaux. Le problème des hameaux de forestage, où étaient parqués les harkis, leurs enfants devaient faire 10 kilomètres pour aller à l'école publique. Il y avait des camps. Rivesaltes, il y avait encore des harkis. Les cités de transit, les indemnisations, etc. Le gouvernement Giscard s'est occupé de ça avec beaucoup de sérieux. Mais après, on a dit, dans tous les hameaux de forestage, il y avait des salles de prière. De fortune, les harkis, il y avait beaucoup de talebs. Ils ont dit, il faut s'occuper du culte. Et là, on a eu un groupe de 5 ou 6, 2 islamologues, Ali Merad et Abdelmajid Turki, qui étaient un spécialiste du malikisme au CNRS.
Oui, chercheur.
Élève de Braunschweig. Et
contributeur à la revue Studia Islamica.
Dont il a été le directeur. Oui. Alors, il y avait 2 anciens préfets, Ourabah, qui était préfet d'Orléansville en 60, puis au Conseil d'État, et Omar Mokhdad, qui était un colonel, nommé préfet, quand De Gaulle voulait limiter les pleins pouvoirs des commandants de secteur en Algérie, qui donnaient des ordres au préfet civil. Donc il a dit, en nommant des colonels préfets, on va remédier à ce déséquilibre. Et Barak Rouk, qui était secrétaire d'État à l'Algérie en 57. Et Merad était le rapporteur de toutes ces commissions. Alors, il y en avait beaucoup d'autres. Il y avait Labastide, qui était directeur de l'école des langues orientales à l'époque, vivante. Donc, ils ont fait regarder autour d'eux l'historique. Ils ont dit, le plus naturel, c'est d'organiser l'islam autour de l'Institut musulman de la mosquée de Paris. Et puis ils ont dit, allons voir comment fonctionne cet institut. Ils ont découvert qu'il était fictif, qu'il n'avait jamais fonctionné, mais il recevait 5 financements publics, dont 4 ministériels. Le 5e financement venait de la mairie de Paris. D'où la recommandation de séparer l'institut de la mosquée et de réformer les statuts de la société des Habous, qui était... selon un responsable du bureau central des cultes, un monstre juridique.
Et qui gérait ou qui s'occupait ou présidait aux affaires de la Grande Mosquée de Paris.
Oui, non, c'était une zone de non-droit à l'époque. Et Giscard d'Estaing, communiqué par le biais de quelqu'un qui est encore actif, c'est Lamassoure, qui est député européen, je crois, qui était catholique pratiquant et qui communiquait régulièrement les conclusions de cette commission à Giscard en personne. Et Giscard commence par accepter l'idée de l'envoi d'une délégation de pèlerins musulmans à la Mecque, conduite par Abdelmajid Turki, qui a fait flotter le drapeau tricolore sur le mont Arafat. Et avec une lettre au roi Khaled, une très belle lettre que j'ai retrouvée dans les archives de Merad, de Giscard... pour dire que la France respecte l'islam, qu'elle a des citoyens musulmans, dont elle respecte les croyances, etc. Mais l'alternance de 81 a tout amené les nouveaux pouvoirs à faire du passé table rase.
C'est-à-dire qu'on ne s'est plus occupé des questions sociales, y compris les questions culturelles inhérentes à ces questions sociales, mais on a, selon vous, Sadr Selam, plutôt essentialisé la question islamique.
La question islamique, on a opté dès le début pour une gestion purement sécuritaire et multi-étatisée. Maintenant, quand on nous parle de l'islam consulaire, de l'intervention des États étrangers, c'est le pouvoir de 81 qui a fait appel à ces États pour gérer les mosquées. Et maintenant, on nous dit qu'ils ne devraient pas s'occuper des mosquées. Bon, il faut plusieurs émissions pour... décrire les inconséquences de la nouvelle politique musulmane de la France vis-à-vis de ses citoyens de confession musulmane. Mais malgré ça, Merad répond comme un boy scout présent quand le président Mitterrand en personne l'a mandé en février 89, après la manifestation contre le livre de Rushdie. Il y avait 1 millier de manifestants, mais ça fait peur... dans les chaumières, et Merad a remis un autre rapport, beaucoup plus circonstancié, pour dire ces gens-là, il faut les instruire. Et il a proposé trois solutions à un institut de théologie musulmane qui aurait été ressemblant à la Cato de Paris. Donc 50% privé, 50% public. Et Mitterrand était prêt à fournir la partie publique. Mais Merad a dit le public risque d'être des pétrodollars avec lesquels on importerait des théologies rétrogrades. Deuxièmement, une faculté de théologie musulmane à Strasbourg, en zone concordataire, où le concordat permet le financement public de l'enseignement religieux. Trois, un établissement indépendant, qui soit à Paris, pour relancer les études islamiques avec comme finalité l'encadrement et l'éducation des jeunes musulmans de France. Or, Mitterrand lui-même a opté pour la faculté de théologie à Strasbourg.
Dans les départements concordataires.
Oui. Or, Mitterrand est un avocat, il connaît le droit. Et Mitterrand, s'il a fait appel à Merad, c'est qu'il lisait les journaux. Contrairement aux autres socialistes, il se souvenait de la commission Dominati. Il a dit, ramenez-moi quelqu'un qui avait fait partie de cette commission. Ils ont trouvé Merad. Mais
dite commission étant la Commission nationale des Français musulmans.
Absolument, oui, qui a été créée par un décret qu'on trouve au journal officiel. Mais après, le ministre de l'Intérieur, qui gère le concordat, a décrété que le concordat est un résidu de l'histoire qui ne saurait être appliqué à l'islam. Et il a été à Strasbourg pour rassurer les hiérarques des autres religions, les protestants, les juifs et les catholiques, pour leur dire, rassurez-vous, il n'y aura pas de faculté de théologie musulmane. Il a envoyé son conseiller recevoir une association de musulmans turcs. Donc les musulmans n'avaient droit qu'aux conseillers. Donc il y avait déjà un système à deux vitesses. Mais on sait maintenant que le ministre de l'Intérieur de l'époque a été mis en garde par le doyen de la faculté de théologie protestante, qui est monté à Paris exprès pour mettre en garde le ministère contre l'ouverture de cet établissement, parce que on croyait que ça allait se faire aux dépens du budget global des instituts de théologie. Et le vrai mobile du ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était la première affaire Adam, qui n'a jamais été médiatisée. Le ministre voulait concertation pour la nomination du nouveau recteur de la mosquée de Paris. Donc il appelle l'ambassadeur Audibert à Alger pour lui dire il ne faut pas donner de visa au recteur que les Algériens vont proposer. Or, Audibert venait de la cellule diplomatique de l'Élysée, quand, je crois que c'est le général Belkhir qui lui soumet le CV de Adam, il le faxe à l'Élysée, et Mitterrand a dit, il faut lui donner le visa. Et le ministre de l'Intérieur a vécu ça comme une humiliation. Il était très susceptible, et il s'est vengé en disant que tout ce qui concerne l'islam et vient de l'Élysée, je le refuse. Et jusqu'à maintenant, les chroniqueurs religieux croient qu'il y a une clause juridique qui s'oppose à l'ouverture d'une faculté de théologie, alors que c'est un problème interne au Parti socialiste.
Et de susceptibilité personnelle. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Sadak Selam, écrivain, chercheur, historien de l'islam contemporain Et aujourd'hui, nous rendons hommage à cette grande figure de l'islamologie savante qui nous a quittés, Ali Merad. Pour cette dernière partie de l'émission, Sadr Selam, vous parlez aussi d'une anecdote dont j'aimerais bien que les auditeurs prennent connaissance de sa teneur lorsqu'il devait déjeuner avec un conseiller du ministre de l'Intérieur à propos d'une autre commission. Et quand il a vu ce qui composait la dite commission, il a dit bon, « moi je ne voudrais pas en faire partie ».
Alors là, c'est intervenu en 1997, au moment de l'arrivée au pouvoir de la gauche plurielle. Alors, entre-temps, il y a eu le rejet. Alors, Merad s'est retiré quand on a dit que le concordat, c'était un résidu de l'histoire. Il savait que c'était faux, il voulait pas de polémique. Et Harkoun a pris le relais, et il a repris la troisième option du rapport de Merad de 89. Il a dit, il a présenté un centre... projet de centre national d'études de l'islam qui a été accepté par la cinquième section de l'école pratique des hautes études, présidée par Jean Bobéro à l'époque. Mais il fallait l'aval de ministère et aussi bien Jospin qui était ministre en 92 de l'éducation que son chef de cabinet Claude Allègre ont refusé de recevoir Harkoun. Ce qui montre que le sérieux que de la politique musulmane de l'époque chez des gens qui étaient de bonne foi, hein, qui étaient pour l'égalité républicaine, mais le problème de l'islam était étrange pour eux. Et ils préféraient la gestion sécuritaire. Alors, Chevènement arrive au ministère de l'Intérieur en 97, mai 97. Il charge son ami et conseiller Mouchan du dossier de l'islam. J'ai été, par un pur hasard... amené à me trouver dans le bureau de Mouchan, en présence de Ourabah, l'ancien préfet, et de Barakro, qui avait siégé dans la commission Dominati de 77, qui connaissait très bien le statut de la société des Habous. C'est lui qui a instruit la plainte de Ben Rabrit au Conseil d'État en 1963.
Et qui est... Ben Rabrit étant de la famille du premier recteur de la Grande Mosquée de Paris.
Oui, qui a été évincé pour permettre l'arrivée de Hamza Aboubakar, le candidat préféré de Guy Mollet. Et donc, alors on a parlé de toutes les questions, notamment de l'émission islamique, dont Mouchan s'est occupé à la suite de cette...
L'émission islamique sur France Télévisions maintenant.
Oui,
sur
télévisée, France, oui. Et après, on a parlé de l'enseignement. On a rappelé qu'il était question de séparer l'Institut de la mosquée en 80, etc. Et moi, j'ai parlé d'Harkoun, parce que c'est lui qui était médiatisé par Trocmé. Et Mouchan me dit, mais en dehors d'Harkoun, cette communauté a d'autres intellectuels. Je dis, il y en a beaucoup. Mais... Par exemple, j'ai dit Ali Merad. Donc, il cherche ses coordonnées, il l'invite dans un restaurant pour lui proposer de faire partie de l'équipe qui présentait on a changé d'intitulé, on a appelé ça École des hautes études de l'islam. Harkoun, même le mot islamique était ambigu, il y avait une connotation militante, il a dit études de l'islam. Et Merad vient de Lyon, il répond toujours présent comme un boy scout, et il commande le menu, du poisson, etc. Et il pose la question à Mouchan, qui voulez-vous mettre dans l'institut? Il cite le premier nom, c'est celui d'un islamopolitiste hyper médiatisé, dans les apparitions, mais mettait Merad hors de lui. Lui qui connaissait bien l'histoire, l'islam contemporain, il était très mécontent de voir ces genres de politistes ne s'occuper que des mouvements radicaux qui incitent à la violence, qui représente quand même une minorité. Or, c'est anti-scientifique que de ne s'intéresser qu'à des minorités. Et là, il dit, vous venez de me couper l'appétit, ce nom me coupe l'appétit, il se lève, il décommande, il rentre à Lyon. Et donc, ça donne une idée de la colère que crée ce genre de politiste médiatisé chez quelqu'un qui a une sensibilité islamique, religieuse, et qui est aussi un spécialiste de l'islam contemporain, qui n'admet pas les discours, les raccourcis médiatiques, il tenait un, Merad avait été pendant peu de temps, en 80-81, responsable d'une émission sur FR3, qui a été proposée par la commission Dominati. Et lui, il voulait l'inverse. Il voulait faire passer la rigueur scientifique dans le monde médiatique. Alors que le politiste en question faisait l'inverse. Et il est resté à l'écart. Mais quelques mois avant cet épisode, il a écrit un grand article dans Le Monde proposant une conférence musulmane de France, où il expliquait que bon, le Corif a été vite oublié.
Le Corif étant le conseil de réflexion sur l'islam en France. Et la conférence, c'est un peu sur l'exemple de la conférence des évêques de France.
Des évêques, mais mise en place par les musulmans, de la société civile. Il était très conscient des limites de l'organisation de l'islam par le haut. Et alors, malgré toutes ces déceptions, au moment de la création du Corif, Jox l'a fait venir et il lui a demandé son avis. Il a dit, l'intégrisme est une lame de fond qui finira par gagner la France compte tenu du nombre d'immigrés musulmans. C'est la France la plus importante communauté sur le plan numérique, communauté musulmane en Europe. Et s'il n'y a pas de prévention sur le plan éducatif, on finira par avoir un mouvement intégriste préoccupant. Or, la semaine d'après, le conseiller au culte, en deux mots, a fait venir le responsable, l'ambassadeur de la Ligue arabe à Paris, qui était très médiatisé, et on lui soumet le point de vue de Merad. Il dit, Merad ne connaît rien, l'intégrisme est un phénomène de Ajam, de non-arabe. C'est l'Afghanistan, c'est l'Iran, c'est le Pakistan, c'est le Bangladesh. Or, le monde arabe et les immigrés arabes de France sont prémunis par le nationalisme arabe. Et le ministère a cru cet islamologue de Public Relations aux dépens de l'avis autorisé de Merad. Et là, je pense qu'au plus tard, jusqu'au 7 janvier 2015, on s'est aperçu à quel point Merad avait raison et qu'on aurait dû l'écouter.
Oui, et qu'on écoutera même outre-tombe. Merci Sadr Selam, merci de nous avoir présenté cet homme d'une grande érudition, cet humaniste. Vous avez dit dans un autre contexte que lorsqu'il se sentait pas bien, il récitait le Coran. Donc c'était aussi un homme de foi.
Et qui était poète. Il a laissé deux recueils de poétiques, l'un en français et l'un en arabe, avec des contenus différents. C'était quelqu'un dont le bilinguisme a élargi les horizons intellectuels.
Et qu'il l'a ouvert sur le monde. C'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres, chers amis auditeurs, sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jason Taous. Et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.